Et là, vous avez une séquence qui commence comme ça, quand il est en train de parler des effets, le recul de l'énonciation où s'actualise les effets de métaphore et de métonymie. Soit selon nos thèses, les mécanismes mêmes décrits par Freud pour être ceux de l'inconscient. Mais il nous revient ici légitimement la question, page 835. Sont cela effet de langage ou effet de parole? Vous voyez, il reprend le titre de son discours de Rome. Donc je tiens que c'est à partir de ce moment-là qu'il va décrire, un processus en deux moments. Il va dire qu'il y a deux mouvements. Il y a un premier mouvement qui se produit dans la mesure où le sujet qui écoute ne répond pas. Et ensuite, il y a ce que Lacan appelle le second mouvement. Il parle là d'une projection de la topologie du sujet dans l'instant du fantasme. Donc cette séquence, cette page 835, c'est à mon avis la première version donnée par Lacan de ce qu'il va reprendre dans Litturater sous l'aspect de la rupture du semblant et du ruissellement. C'est-à-dire le fonctionnement, la manière dont la topologie du sujet fonctionne. Avec ce que Lacan appelle donc rupture de semblant, ruissellement, puis dit-il, il faut apprendre à compter les lettres dans l'ordre et recomposer du signifiant. Donc j'ai proposé d'appeler ça, lui il parle du ravinement, donc je compte les lettres qui ruissellent vont raviner le signifié, et ensuite, si on compte bien les lettres, on peut recomposer du signifiant. J'ai proposé de parler de ravissement à cette occasion. Donc voilà, ça c'est position de l'inconscient, c'est déjà une notion extrêmement importante auquel vient s'ajouter ces considérations sur notre disque. C'est quelque chose de différent de ce que j'ai fait avec le schéma en forme de T, j'ai consacré même un petit livre à ça, à propos de ce texte position de l'inconscient et du texte de Litturater. Ça me paraît que c'est une chose, à mon avis, que les contemporains n'ont pas lu, parce que tout le monde, très vite, a lu le séminaire sur les quatre concepts, où il est question de l'aliénation et de la séparation, mais où il y a une impasse faite sur cette structure qu'on va retrouver seulement dans Litturater. Ça explique, à mon avis, ça explique la grande incompréhension de beaucoup des lecteurs et des auditeurs de Lacan de l'époque. Parce que comme ça, il y a un certain nombre d'impasses qui ont été faites, en dehors du fait que Lacan lui-même a organisé son exposé et ses explications de telle manière que, à mon avis, on ne peut apprécier le début et le milieu qu'en allant jusqu'à la fin. Bon. Donc tous ceux qui ont fait l'impasse sur la fin, déjà, il me semble, parce que j'ai signalé qu'il définit le trauma comme la droite infinie, le trauma, l'Urvergrang de Freud, comme le malentendu des parents. Dans la dernière leçon faite à Paris, avant de partir pour Caracas, c'est une leçon qu'il a fallu ne pas faire, et il a beaucoup insisté pour faire cette leçon, puisqu'il y dit deux choses qu'il n'avait jamais dites explicitement, aussi explicitement qu'à ce moment-là. Il nous dit que ce qu'on appelle l'inconscient aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait autrefois Dieu. Ça a tout à fait à voir justement avec cette histoire de trauma, puisque là, le trauma, il décrit avec la DI. Alors là, on entend bien qu'il féminise ce Dieu. Et Lacan nous dit, dans cette dernière leçon à Paris, il nous dit, mais vous savez, donc ce qu'on appelait autrefois Dieu, c'est ça qu'on appelle l'inconscient. Et il ajoute, ne croyez pas que votre inconscient vous veut du bien. Alors, c'est pas très rassurant, parce qu'il était en train de se casser, de se barrer. Il allait à Caracas, mais après il est revenu, il n'a plus ouvert la bouche, il n'a plus rien dit. Donc c'était une annonce quand même assez inquiétante. Et la suite des événements, d'ailleurs, donne assez raison à cette. Si on croit qu'il suffit de se mettre sous l'égide de Freud et de Lacan pour se protéger des mauvais effets de l'inconscient, je crois que c'est une erreur. Et ceux qui en font un argument publicitaire ou commercial ou corporatiste, à mon avis, se trompe. Et la meilleure façon de faire, c'est de s'armer de courage et de ne pas être fou, à mon avis. Enfin, de ne pas être une belle âme. C'est déjà la meilleure chose qu'on peut faire. vis-à-vis de ces effets retorses de l'inconscient que tout le monde, avec lequel on se gargarise, qu'on appelle le surmoi, hein, sans se rendre compte que Lacan a traité de cette question dès l'année 48 dans Propos sur la causalité psychique. Donc, moi, je pense que c'est un prérequis pour que l'analyse existe. Et ça concerne la théorie des entretiens préliminaires. Mais on me répond que je me trompe. Lacan, il a aussi parlé de la psychose comme folie. Je nie pas du tout qu'il a parlé de la folie à propos de la psychose. Il a parlé aussi de la psychose en disant que les psychotiques étaient des emmerdeurs. Enfin, on peut dire des choses. Il y a beaucoup de choses dans Lacan. Mais je crois que c'est se tromper que de ne pas lire position de ça s'appelle Propos sur la causalité psychique. C'est un texte de 48. Et à mon avis, la confusion aujourd'hui qui est devenue patente pour tout le monde à propos des psychothérapies, eh bien, je vous dirais que un transfert sans analyse est un délire. Ça s'appelle aussi un acting out. Et si on n'y introduit pas l'analyse, on est dans une situation délirante. Et en plus, si le sujet, lui, ne s'engage pas, est une belle âme, alors en plus, on a affaire à un fou. J'en ai reçu un cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un fou qui dit, lui, qu'il est psychotique. Je pense qu'il a une très grosse phobie, mais de toute façon, on ne va pas rentrer dans les détails. Vu la confusion générale dans en matière de diagnostic, vous voyez, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de diagnostic d'abord, mais qu'il y a des repères structuraux qui permettent quand même. Aujourd'hui, on fait passer n'importe quelle névrose, qu'elle soit phobique ou hystérique, pour de la psychose, parce que de toute façon, il s'agit de dompter les faux. Le type, il est fou, d'abord. Le type qui est venu me voir, il est fou. Il n'était pas content parce qu'il voulait que je lui donne, que je donne du sens à tout ce qui lui arrive. Moi, je lui dis, moi, je donne pas de sens. Alors, il n'était pas content. Je lui ai dit, mais c'est pas la peine de continuer. Si vous voulez du sens, il faut aller ailleurs. Bon, il n'était pas un fou furieux, mais il était quand même un fou méchant. Et moi, j'ai une position tout à fait différente en matière de folie et de causalité psychique. C'est-à-dire, les structures freudiennes du symptôme, qu'on peut, à mon avis, dans la psychanalyse, nous sommes même là pour ça, pour prendre en charge toutes ces structures freudiennes, qu'elles soient perverses, névrotiques, psychotiques, ou même la psychanalyse elle-même, qui me paraît être une structure freudienne du symptôme. Voilà les quatre grandes structures freudiennes du symptôme. Et par contre, les fous, c'est rédhibitoire. Lacan l'explique dans Position de l'inconscient. Je peux vous lire le passage. C'est juste après le passage que je vous ai signalé. Hein. Lacan, il écrit un truc comme ça, qui est pour moi une très grande indication. Pour nous, ajoute Lacan, hein, bah oui, parce qu'il est en train de finir la séquence en disant que le sujet ne peut pas s'appréhender lui-même du fait d'être sujet du désir, hein, de n'être autre que le sujet du désir de l'autre. C'est en quoi tout discours est en droit de se tenir pour être de ses effets irresponsables. C'est ça ce que j'appelle la folie. Se considérer comme irresponsable, n'est-ce pas, des effets du discours. Bon, tout discours, dit Lacan. Moi, je pense que c'est pour ça que la psychanalyse, ça doit plutôt être pratiquée dans un domaine, dans un local, un territoire, on va appeler ça, qui a une porte qui fonctionne, qui s'ouvre, qui se ferme. C'est un territoire qui est structuré par des coupures, comme la libido humaine en général, c'est-à-dire. Là, j'ai écrit là-dessus un texte sur les phobies pour parler de la terreur du territoire. Et donc, je pense qu'il faut pratiquer la psychanalyse dans un domaine, dans un local qui est structuré de telle manière que la porte fonctionne. Et c'est privé, ça ne regarde personne, même pas les institutions analytiques, ça ne regarde que celui qui prend la responsabilité de vouloir faire une analyse et d'instituer un analyste en position d'analyste, puisque n'est analyste que celui qui a des patients. À charge pour lui d'avoir fait le nécessaire, c'est-à-dire une analyse. Bon, mais ça le regarde aussi. Ça ne nous regarde pas. Donc, moi, je pense qu'il n'y a rien à aller voir du côté de ce qui se passe dans un cabinet de consultation. Mais Lacan lui dit, pour nous, nous nous sommes toujours cru comptables d'un tel effet. Tout discours, dit Lacan, tout discours, sauf celui de l'enseignant quand il s'adresse à des psychanalystes. Voilà ce qu'il appelle le discours qui doit se considérer comme responsable. Donc je reprends tout le paragraphe. C'est en quoi tout discours est en droit de se tenir pour être de ses effets, les effets dont il a discuté précédemment, de langage ou de parole, irresponsable. Ça veut dire qu'on est fou partout. Tout discours, sauf celui de l'enseignant quand il s'adresse à des psychanalystes. Là, alors évidemment, tout le monde pense qu'il parle de lui. Enseignant, quand il s'adresse à des psychanalystes, il s'adresse à son séminaire, il dit bien qu'il s'adresse au regard de son séminaire et qu'il s'adresse, n'est-ce pas, qu'il suppose qu'il y a du psychanalyste dans la salle. Mais moi, je tiens que c'est la position de l'analysant, cette position de l'enseignant, quand il s'adresse à des psychanalystes. Et que donc, vous voyez, là, Lacan est en train de nous dire que on peut se considérer comme irresponsable des effets de discours, dans toutes les circonstances, sauf quand on est analysant et qu'on s'adresse à un analyste. Et c'est pour ça que je dis que les propos sur la causalité psychique, où il est question de cette irresponsabilité et de cette responsabilité, parce que dans le texte de 48, Lacan distingue bien, après avoir fait un pied de nez à Henriet à propos de Descartes, bon, déjà ce qui fout tout le monde à plat, en général personne ne va plus loin. Et regardez, je sais pas de la médisance, je lisais le compte-rendu de Madame Roudinesco à un colloque sur Foucault qui s'appelle Foucault 20 ans après. Elle fait un exposé très large à propos de la folie et elle cite évidemment les propos sur la causalité psychique de Lacan et elle s'essouffle déjà dans le premier job que Lacan fait à Henriet en lui expliquant d'une manière valeureuse que Descartes est plus propice à Freud que à Henriet lui-même et son organon thérapie, son organon dynamique. Bon. Donc, vous voyez, c'est quand même, nous sommes dans une situation qui est absolument comique et c'est assez embêtant parce que, vous voyez, on commence à en ressentir les douleurs dans les pieds, ça fait des sortes d'encoules, on est un peu coincé aux encoignures, vous voyez. La France voit la politique disqualifiée, on a des pétainistes en puissance qui prennent le pouvoir, et tout le monde trouve ça très bien, en disant qu'après tout, ce serait un jeu démocratique. Bon, moi, je pense que si tout le monde est fou, c'est la démocratie, elle a un petit problème à résoudre. Il faudrait quand même se rendre compte que la psychanalyse, elle a un rôle à jouer, même dans la démocratie, si on veut être démocrate. Moi, je suis plutôt républicain, je vous dirais. Mais pas au sens américain, au sens français, au sens de notre belle révolution voulue par le pape. Bon. Ça, c'est une autre histoire. Alors donc, vous voyez, Lacan, il parle bien de la responsabilité du sujet. Il dit, pour nous, nous nous sommes toujours cru comptables d'un tel effet, et bien qu'inégal à la tâche d'y paraît, c'était la promesse secrète à chacun de nos séminaires. Je vous ai dit page 836.
La prouesse.
Prouesse, oui. C'était la prouesse secrète à chacun de nos séminaires. Bon. Et vous voyez que Lacan continue ici à parler de la situation qui nous occupe, puisque un peu plus loin, il dit que son séminaire est anathème de ce qu'il s'inscrit dans cette vérité, qu'il n'y a aucun esprit scientifique dans la psychanalyse. Ça fait tout à fait défaut au lieu de recrutement des psychanalystes, dit-il, page 837. Bon, tout ça pour dire que les choses n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on n'a pas été vacciné, quoi. Et on ne peut pas, même en revendiquant Lacan et en le répétant à tort et à travers, sans aller voir un peu précisément ce qu'il fait effectivement, comme par exemple faire bouger des disques en plastique à la noix, ou bien, je ne parle même pas de l'étude des nœuds, vous voyez, j'aimerais bien reprendre mon séminaire sur la question des psychoses à partir du symptôme, mais on va voir ça là, peut-être l'année prochaine. Pour l'instant, je voudrais préciser cette question de sujet et de division du sujet dans le fantasme. Bon. Donc voilà des choses qui se trouvent dans position de l'inconscient que je vous conseille. Il y a aussi une définition de la position de l'analyse dans position de l'inconscient qui vient un peu avant. Il dit que l'analyse, de toute façon, il est mis en cause dans son fauteuil. On le met en cause.
Mis en cause.
Ce qui me fait dire, ça fait sourire mon ami Michel Plomb, quand j'ai raconté ça au séminaire de la du manifeste, là, maintenant qui est paru. Quand j'ai expliqué qu'on ne devait pas parler d'un analyste, on peut parler des analysants en disant qu'il y en a qui sont vraiment nuls, mais on ne peut pas mettre en cause un analyste en ville, je dirais, en public, ou d'aucune manière. Si on veut le mettre en cause, il faut aller le voir et le mettre en cause dans son fauteuil. Bon, ça peut coûter de l'argent, parce que ça peut coûter le prix d'une séance. Bon. Et enfin, ça fait partie de la règle du jeu. C'est-à-dire que Lacan là, précise bien que le psychanalyste, sa fonction, c'est d'être mis en cause. Donc, il faut pas être trop dur avec eux. Mais par contre, ce qu'il faut discuter, pas aller voir non plus quelle analyse ils ont fait, moi, je pense que ça ne regarde pas. Hein. Mais enfin, on peut quand même dire hein, qu'il y en a un bon nombre, quand même, qui sont nuls. Parce que, justement, ça, c'est Lacan qui le dit dans télévision, hein, il dit passe fictive pour analyse inachevée. Oui.
Voilà. Heureux l'état ou passif voilà. Pour relation orientée, car il laisse de l'espoir.
Et voilà, vous avez appris par cœur, mais vous voyez que je suis bien d'avis qu'il faut l'apprendre par cœur. Et là, mâcher, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Analyse inachevée, ça veut dire qu'il est en train de parler du pli que l'analysant peut prendre d'un analyste s'il choisit un analyste qui n'est pas allé bien loin, justement, dans son trifouillage de la langue, du langage, de la parole, de l'écrit, qui croit qu'il sait des choses. Et alors, à ce moment-là, vous voyez, je pense que c'est ça qui s'appelle... Ce qui laisse de l'espoir, c'est que c'est inachevé. Après tout, on peut changer d'analyste aussi. Hein. Bon. Alors, oui, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, que quand il parle de l'analyste mis en cause dans son fauteuil, il parle aussi, peut-être mettre en cause quelqu'un, mais il parle de l'analyste en tant que semblant de petit à cause du désir.
Vous êtes un grand lecteur, je crois. Voilà. Mais bien sûr, la cause, il joue sur le mot cause. Bah, on va voir quelqu'un pour lui causer, mais on attend bien qu'il cause quelque chose. Voilà. Bon. Alors, on voudrait qu'il cause aussi.
Bah, oui. Hein.
Mais vous voyez, donc cette notion de mise en cause, c'est évident que c'est polysémique et que il faut le dire comme ça. Ça, c'est toujours comme ça avec la croix. Alors, je vais vous dire maintenant le passage qui traite de la séparation, puisque c'est notre affaire de ce soir. Alors, ça se trouve dans Position de l'inconscient, page 842. Il dit, après avoir traité de l'aliénation, il dit, venons-en à la seconde opération où se ferme la causation du sujet. Pour éprouver la structure du bord dans sa fonction de limite. Alors, je signale au lecteur de Position de l'inconscient que plusieurs pages plus haut, avant même d'avoir, juste après avoir traité de ce complément du discours de Rome, Lacan introduit la topologie des surfaces en termes de bord. Bon, ça se trouve aussi dans Position de l'inconscient. Je peux vous dire la page, si vous voulez, pour voir que le bord qui vient là, il tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Vous savez, c'est quand Lacan parle de la caverne de Platon, hein. C'est page 838, hein, béance, vous voyez, battement, une alternance de succion. Là, il est en train de parler de la rhétorique de Freud, pour suivre certaines indications de Freud. Voilà ce dont il nous faut rendre compte. C'est à quoi nous avons procédé à le fonder dans une topologie. La structure de ce qui se ferme s'inscrit en effet dans une géométrie où l'espace se réduit à une combinatoire. Elle est à proprement ce que l'on appelle un bord. Bon. Donc ce bord, moi je lui ai fait je lui ai consacré beaucoup de soins dans Étoffe, puisque Étoffe c'est un livre que j'ai voulu faire d'enseignement, pour enseigner ce qu'on fait en théorie des surfaces topologiques. Ça pourrait servir aux analysants de s'apercevoir que hein, c'est vrai que l'espace se réduit à un combinatoire, et que là ce dont il est question justement c'est de voir qu'il s'agit de traductions hein, entre différents espaces, mais qui sont chacun à prendre comme une combinatoire, qui peuvent se transcrire, donc les espaces se transcrivent, c'est des jeux d'écriture. J'insiste sur le point de vue épistémique qui est le mien, qui est de dire que la science n'a jamais observé, on a observé peut-être le monde tel qu'il était du temps du néolithique, grâce aux mythes. Mais depuis que l'écriture a été inventée et qu'on s'est mis à faire une conception du monde d'abord, en termes justement pseudo-mythologiques. Les religions ne sont pas des mythes du tout, justement pour la raison que les mythes, c'était des moyens mnémotechniques pour accumuler l'expérience. Mais déjà, on voit que le langage, comme l'explique très bien Lévi-Strauss, même à propos de race et histoire, de race et culture, il se bagarre avec ce problème. Comment est-ce que nous transformons le monde par notre exercice du langage et du fait, par nos actions, nos mouvements, nos activités qui en dépendent. Et donc, moi, je tiens que même avec la science qui est devenue mathématique grâce à la théologie catholique, via la Méditerranée, le monde arabe, puisque je pense, moi, que la notion, comme l'explique Gibson, d'une théologie de l'existence, en relation avec qui a remplacé une théologie de l'essence, a permis à non seulement à Kepler, mais surtout à Galilée, d'énoncer que le monde s'écrit en mathématiques. Je ne crois pas que le monde s'écrit en mathématiques, je pense que la mathématique est une écriture qui transforme le monde. Et que la psychanalyse n'est pas tellement mal placée pour transformer le monde, parce que justement, il est question d'y écrire aussi. Bon, Freud, il a commencé par écrire. Il a écrit 25 volumes, et Lacan, quand il parle, c'est pas de l'écriture, c'est donc ça résout la porie psychanalytique de savoir quelle est la différence entre la psychanalyse avec Freud et avec Lacan. La psychanalyse, c'est la même, mais celle de Freud elle est écrite dans 25 volumes, et celle de Lacan elle est parlée, et on a quelques petits déboires pour arriver à obtenir une mise au point, enfin je veux dire un compte rendu de ce que Lacan a pu dire. De toute façon, on n'aura pas. C'est la parole, on ne va pas la restituer comme document. Par contre, moi, je tiens que les paroles restent et que c'est les écrits qui s'envolent. Donc, c'est comme ça que je comprends ce que disait Lacan en disant que ce qui est important, il s'adressait à son séminaire, il dit c'est important que ça vous rentre par les yeux et les oreilles. Donc, moi, j'essaye de recracher ça d'une manière à peu près décente. Enfin, quand j'ai plus de couleurs, c'est plus joli. Aujourd'hui, c'est pas très... celui-là, ça va, mais ça, c'est pas très joli. Enfin, au moins, on a l'impression d'être en travail. Hein. Bon. Mais d'essayer de rendre ça d'une manière décente, qu'est-ce qu'ils voudraient ceux qui disent qu'il ne faut pas faire de topologie ou de mathématiques, là, et qu'ils n'en font pas, et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on bave. Moi, je trouve que c'est absolument abject. C'est pour ça que je ne vais plus beaucoup dans les colloques. J'attends qu'on organise des colloques à la manière de Pierre Souris, là, puisque j'ai proposé un protocole pour faire des colloques avec de l'écrit au tableau. Hein, j'ai proposé ça à l'école, à la lettre lacanienne. Et on va faire une après-midi de travail sur ce mode le 25 juin.
25 juin, 14h.
À l'Institut de théologie protestante. On va essayer de faire d'échanger des propos et des écritures et des dessins selon un protocole très simple qui consiste à ne pas se précipiter à effacer le tableau sans demander l'avis du public, comme j'essaie de le faire moi-même. Et surtout, là, on aura un modérateur qui va, lui, qui aura la fonction, justement, d'interrompre les exposés si quelqu'un veut poser une question avant qu'on efface le tableau. Hein, parce que c'est tout de même étonnant qu'on ne prête pas l'attention au fait que ça s'efface très vite. Bon. Donc ça, c'était l'idée de Souris, c'est qu'il ne faut pas trop maltraiter l'auditeur en mettant des trucs au tableau, puis ensuite en les effaçant, et puis on n'a pas le temps. Vous me direz que dans beaucoup d'écoles de psychanalyse, dans beaucoup de groupes, on distribue une formation, comme on dit. Les gens, souvent, ils écrivent des mathèmes de Lacan au tableau, alors, vous savez, les quatre discours, des trucs comme ça, et puis ils l'effacent et puis ils réécrivent exactement le même truc. Alors, c'est ça qui me sidère, c'est que ils l'écrivent une fois, ils l'effacent et ils voudraient écrire quelque chose d'autre, mais ils ne sont pas rentrés dans la dynamique du truc. Alors, ça ne fait pas écriture, quoi. C'est-à-dire que ça fait. Alors, ils réécrivent la même chose et puis ils le réeffacent, ils le réécrivent. Moi, j'ai vu ça à Delinda autrefois, là. Au moment de la dissolution de l'école, alors que quand moi j'étais en train d'expliquer des trucs un peu à la con, comme je fais, derrière moi il y avait un malin qui faisait des signes, qui me montrait des panneaux. Bon, vous voyez, c'était des déjà, parce que il était prévu que de toute façon tout le monde pouvait dire n'importe quoi et ça comptait pour du beurre. Moi je ne suis pas de cet avis. Et puis vous voyez maintenant que donc là on va aborder cette seconde opération dont parle Lacan, hein, qu'il appelle seconde opération où se ferme la causation du sujet. Vous voyez, on retrouve la cause. Hein. Pour éprouver la structure du bord dans sa fonction de limite. Alors ça, je vous conseille, si un jour quelqu'un veut que je fasse un exposé sur la notion de limite et la fonction de la limite, c'est volontiers. Je ne vais pas vous accabler avec un truc aussi scolaire, mais tout, comme le mot limite est employé par des crétins qui ont des discours de nourrice, là, qui disent qu'il faut mettre des limites aux petits-enfants, vous savez... Ces enfants sont insupportables, il faut leur donner des limites. Quand vous lisez que la question du père se réduit à ça, à cause d'un monde soi-disant sans limites, vous vous dites que ça va très très mal. Voyez, moi je vous dis ça va très très mal, parce que même si ensuite on évoque Musil, l'homme sans qualité, c'est pas pour autant que le problème est que nous sommes sauvés. Hein. D'ailleurs, on ne sera pas sauvés. Alors, de toute façon, voilà ce que Lacan ajoute à propos de cette limite. Mais aussi dans la torsion qui motive l'empiètement de l'inconscient. Alors, vous voyez, l'empiètement, on commence à voir ici que les deux disques, on peut appeler cette intersection le résultat du fait qu'il y a un empiètement d'un disque sur l'autre. Et qu'on va en faire un processus d'empiètement qui va devenir de plus en plus grave. Hein? L'intersection a quelque chose à voir avec ce terme qu'emploie Lacan de l'empiètement. Cette opération, nous l'appellerons séparation. Nous y reconnaissons ce que Freud appelle Umspaltung, ou refonte du sujet. Vous voyez, je vous dis que ça concerne le sujet et sa division. Et saisissons pourquoi, dans le texte où Freud l'introduit, il la fonde dans une refonte, non du sujet, mais de l'objet, phallique nommément. Donc vous voyez, il y a là quelque chose qu'il va falloir, disons, souligner avec Lacan, c'est que l'Ichpaltung, la refonte du sujet, Freud l'introduit en la fondant dans une refonte de l'objet. Alors c'est bien, nous sommes bien là dans la question qui nous entraîne, c'est-à-dire de rendre compte de la structure du fantasme d'une manière écrite, d'une manière, puisque le fantasme c'est de l'écriture. Ça, le fantasme, c'est... Là, on est du côté du processus secondaire, et l'écriture a commencé avant, mais là, on est vraiment dans l'écriture avec le fantasme. Il n'y a pas de théorie du fantasme chez Freud, j'ai déjà dit ça. Il y a des éléments qui nous indiquent le chemin, et que Lacan va reprendre la question freudienne, puisqu'il dit dans le symptôme que le symptôme de Freud, c'est la réalité psychique. La question, la théorie du fantasme chez Lacan, elle a une fonction extrêmement importante. C'est pas de doctrine de la psychose, pas de symptôme, c'est-à-dire du symptôme de Freud devenant symptôme pour une nouvelle doctrine de la psychose et du traitement, de la psychose qu'on pourrait justement discuter, commencer à imaginer, se poser la question, parce que moi je tiens que ça concerne tout le monde, il n'y a pas d'analyse qui n'est pas à un moment donné, qui n'est pas un contact même, qui ne se développe pas dans la question de la psychose. La psychanalyse, c'est la psychose, c'est une psychose dirigée, et Freud a inventé avec sa réalité psychique un moyen de ce que Lacan appelait une suppléance, et tout le monde après s'est gargarisé avec ce mot de suppléance. Est-ce qu'il s'agit simplement d'introduire une suppléance avec cette réalité psychique? Je note simplement que Freud, voyez-vous, je me réfère à un texte de Freud que je trouve formidable pour ça, qui s'appelle La construction en analyse, qui est la suite de ce qu'il avait écrit sur remémoration, répétition, perlaboration. La construction en analyse, c'est quelque chose qui va prendre justement toute sa portée. Et dans ce texte, à la fin, il y a un passage de Freud sur les transferts dans la psychose et la question de la réalité psychique, où on voit bien que Freud, on peut lire que Freud, c'est quelqu'un qui est prudent, si vous voulez. Quand il découvre, il développe son intuition, il découvre l'inconscient, et il se rend compte que ça marche avec du langage il y a un peu de méthode, hein, qu'on peut étudier, même on peut lire les rêves, qu'on peut lire, qu'il y a quelque chose qui se donne à lire, même si ce n'est pas encore écrit comme un fantasme, puisqu'il va plutôt être question d'écrire le fantasme pour rendre raison du symptôme. Hein, c'est ce qu'il fait dans le Cache-Rébert. Il dit, voilà, fantasme homosexuel, et puis les symptômes, c'est des déclinaisons par négation du fantasme. Les fantasmes chez Freud, l'autre fantasme qu'il décrit, personne ne fait le lien avec la théorie du fantasme, c'est quand même bien un fantasme dont il dit la nécessité, quand Freud nous dit qu'à propos du fétiche, il y a une phrase qui accompagne le fétiche, la fétichisation du nez, avec une brillance sur le nez, hein, c'est en anglais, glance on the nose, un texte sur le fétichisme. Donc vous voyez, perversion, c'est-à-dire fétichisme, le fantasme est absolument nécessaire. Il faut le situer. La psychose, les symptômes psychotiques se déclinent par négation à partir d'un fantasme. Et puis, vous avez le fameux fantasme que Lacan a commenté après Freud, reprenant le texte de Freud, qui s'appelle « Un enfant est battu ». Vous voulez dire quelque chose ?
Oui, deux choses, deux petites. Dans ce texte, Lacan dit...
Quel texte ?
De ce texte de position de la conscience.
Oui, ben dites-le.
Il dit que, donc... cette première opération se boucle en projetant la topologie du sujet dans l'instant du fantasme. C'est-à-dire,
oui,
il a l'air de dire que le fantasme n'est pas un écrit.
Ce que j'ai dit tout à l'heure.
Oui, mais c'est un instant, c'est pas un écrit.
Oui. Non. L'instant du fantasme, le fantasme, c'est un écrit, ouais. Et il a comme détermination quelque chose qui, du côté du temps, correspond à l'instant. Mais c'est pas parce qu'il parle de l'instant du fantasme que le fantasme n'est pas quelque chose qui tient plus à l'écrit. Hein, que à la parole. La parole s'occupe de la vérité, d'accord, et les symptômes, c'est de la parole, vous voyez. Mais moi, je tiens que dans l'espèce humaine, la danse, la musique, ce que Deleuze cherchait avec le percept, c'est du tréunaire, c'est de la parole, c'est de l'énonciation, hein, avec le corps, et que c'est pas encore une écriture constituée, alors que justement, les écritures nécessitent pour se constituer un lien social. Et donc, une écriture constituée. Ce que j'essaye de faire, justement, j'utilise des rudiments d'écriture constituée pour essayer de construire une écriture qui serait une écriture pour la psychanalyse. C'est ça, mes travaux ne consistent qu'à faire ça. Ça veut dire que je ne prétends pas inventer une écriture tout seul, Lacan non plus ne l'a pas fait. C'est un point sur lequel je me distingue d'Alouche qui dit que le nœud est une lettre. Bon, le nœud borroméen pourrait devenir une lettre ou un. Oui, une lettre, Lacan nous dit, n'ayez pas froid aux yeux, c'est pas des caractères, comme on dit, puis alors surtout pas imaginer des trucs comme des idéogrammes, tout ça. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, l'écrit. Alors, on est étouffé par l'écriture alphabétique, puisque ça ressemble à la numération par position, l'écriture des nombres, hein, le chiffre. Mais il faudrait tout de même arriver à se défaire de ce logocentrisme, comme dit Derrida, je crois que j'ai bien lu ça dans le début de la grammatologie, quand il parle effectivement du fait que les occidentaux sont pris dans un dogmatisme d'une écriture alphabétique. Et moi j'avance même les choses, c'est que l'écriture alphabétique, elle fait le jeu des paranoïaques, puisqu'elle prétend être plus exacte que les autres, donc c'est tout est écrit, c'est un duplicate de la parole, je pense que c'est absolument vrai. Même l'écriture alphabétique est à lire, c'est un autre exercice. Une langue écrite n'est pas la même que la langue parlée qui l'accompagne.